avions commencé la dernière fois à entrer dans ce problème très grave, très difficile, complexe. Toujours, quand on entre dans le point de vue de la philosophie politique, il faut bien se dire que c'est d'une extraordinaire complexité. Qu'il ne faut pas avoir là des principes trop précis, si j'ose dire. Parce qu'il faut se demander s'il y a des principes. Je crois que le seul principe qui existe en politique, c'est le bien commun. Je crois. C'est une finalité propre, nouvelle, qui n'est pas la finalité personnelle. Et le bien commun, comme tout le monde sait, c'est extrêmement difficile à bien préciser. Alors, on avait posé la question, et je la repose de nouveau. Pouvons-nous, au point de vue éthique religieuse, découvrir une politique religieuse? Comme on peut se poser, y a-t-il une politique chrétienne? Et c'est toutes ces questions-là qui sont très à l'ordre du jour et qui sont très importantes et difficiles à voir. Parce que, en fond, il y a Israël, l'islam. Je dis bien l'islam. Alors, est-ce que ce sont des politiques religieuses dans Israël et dans l'islam? Et je dis que là, vous voyez, le problème se pose avec beaucoup d'acuité. Il y aurait sûrement d'autres problèmes à regarder. Hein. Ça, c'est évident. Parce que quand on regarde dans l'Antiquité, l'Empire romain, les cités grecques avaient toutes une connexion religieuse. La preuve, c'est qu'il y a eu des martyrs. On devait brûler de l'encens devant les Césars. L'attitude religieuse. On devait brûler de l'encens dans les temples. Et c'était reconnu par l'État. Donc il y a des connexions très anciennes dans des quantités de pays. Et ça explique toutes les guerres de religion. Et ça explique tous les martyrs. Un chrétien, en tant que chrétien, refusait de brûler de l'encens devant César, la statue de César. Parce qu'on n'adore que Dieu seul. Et là, il y avait un conflit entre la foi chrétienne et cette politique religieuse. Si la politique ne touchait pas un point de vue religieux, il n'y aurait pas de conflit. Il y aurait une attitude libérale, c'est tout. Et je prends pour nous, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Vous voyez, l'Empire romain est terminé. On peut pleurer dessus, mais l'Empire romain est terminé. Les périodes terroristes de la Révolution, qui peuvent exister dans toutes sortes de pays, pour la France, c'est terminé. Ça peut recommencer. Et vite, très vite. Parce que les passions politiques, quand elle se lie, quand elle s'affronte aux passions religieuses, ça fait très, très vite des guerres. Il y a l'intolérance. Il faut regarder la philosophie de Locke, qui est la philosophie d'une politique libérale et qui cependant exclut tout dogmatisme comme une intolérance. C'est extrêmement complexe, hein, l'histoire de la politique. Mais c'est intéressant. Il faudrait qu'on ait le courage de faire une topique de la politique, de la philosophie politique, pour vraiment comprendre un peu le problème d'une philosophie politique. Ici, je veux simplement toucher quelques points qui me semblent importants à mettre en pleine lumière. Et alors, je vous demande, surtout pour ceux qui sont plongés dans ces problèmes actuels, d'être très attentifs et, dans la mesure où il y a des problèmes à préciser, ou si ce que je peux dire peut heurter, qu'on ait le courage de poser les problèmes ouvertement. C'est-à-dire dire, oh, père, là, je ne suis pas d'accord, hein, devant telle ou telle chose. Plutôt que de dire, je ne suis pas d'accord, je me tais. Puis alors, ça ressort 3 ans après. C'est jamais très loyal, ça. Alors, j'essaie de comprendre quel est le rapport de l'éthique et de la politique. Et de l'éthique humaine et de l'éthique religieuse. Puis après, je regarderai Israël et le problème de l'islam. L'éthique est d'abord personnelle, comme toute responsabilité. Et elle naît à partir du problème de la responsabilité et donc à partir d'un problème d'un amour personnel et spirituel. Quand il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'éthique. On peut avoir une éthique qui repose sur des lois, mais ce n'est plus l'éthique. Sur l'impératif catégorique, mais ce n'est plus l'éthique. L'éthique repose toujours sur un amour personnel, sur un lien d'un homme avec un autre homme qui est son ami. On est responsable de son ami. L'éthique, très vite, pose un problème politique, puisque dès qu'il y a amour d'amitié, il y a déjà, embryonnairement, une communauté. L'amitié se développe entre hommes au niveau de la famille. Et on peut dire que la philosophie de la famille donne le fondement d'une philosophie politique. Et lorsque la famille se développe, on passe de la tribu à la politique. Pratiquement, on suit toujours ce cheminement-là, cet ordre génétique. Que peut-être une philosophie politique, elle regarde les relations des hommes entre eux. Elle regarde le problème de la solidarité et le problème de la coopération. Où les hommes entre eux peuvent avoir des problèmes de solidarité en vue d'une plus grande efficacité dans le travail, en revue d'un bien-être. Cette collaboration permet à plusieurs de réaliser une œuvre commune. Et c'est à partir de l'œuvre commune que le bien commun commence à exister. Je crois qu'il n'y a pas d'œuvre commune, il n'y a pas au sens strict de bien commun. C'est déjà assez lourd de conclusion, ça. Je crois. Des questions qui peuvent être discutées en philosophie politique, ça. Je crois que tant qu'il n'y a pas une œuvre commune, tant qu'il n'y a pas d'œuvre commune, il n'y a pas de vie commune. Il peut y avoir une juxtaposition, mais il n'y a pas de vie commune. Tant qu'il n'y a pas d'œuvre commune, l'œuvre commune pour les moines, c'est l'arrestation de fils. C'est une œuvre commune. S'il n'y avait pas de récitation de l'office, il n'y aurait pas d'œuvre commune. Habiter sous le même toit, en faisant un petit règlement de vie pour qu'on ne se rencontre jamais, que chacun fasse sa petite cuisine ou son travail, il n'y a pas de communauté alors. Il y a une juxtaposition. Tous ceux qui habitent le même immeuble, qui se rend compte que dans l'ascenseur, il n'y a pas de bien commun, si ce n'est qu'on a acheté l'ascenseur en commun. Je crois que c'est le minimum du bien commun. C'est l'ascenseur, le terrain où on se rencontre. Il y a l'achat de l'immeuble, il peut y avoir là une société. Mais au fond, c'est le bien, c'est l'escalier et l'ascenseur qui sont l'usage commun. L'usage commun peut s'étendre au fait que quand il fait froid, la chaleur, quand il y a des réparations de gaz, il y a des tas de choses comme ça. Mais ça, on peut encore arriver à s'en tirer pour vivre seul dans un immeuble. Mais l'ascenseur et l'escalier, c'est la situation limite de la vie commune. C'est un bien commun. Minimum. On a tous payé l'ascenseur en commun. Alors il y a le concierge. Pour certains immeubles, c'est pas nécessaire. Certains immeubles ont encore des concierges. Le concierge est payé par tout le monde. Donc, c'est encore un bien commun. Au fond, le concierge est une personnification du bien commun. Et dès que l'ascenseur ne marche plus, c'est lui, tout de suite, qui est en cause. Vous voyez ? C'est très curieux, hein, ce que représente la vie commune dans un immeuble. Donc, minimum de bien commun. Mais quand le bien commun grandit, la vie commune augmente. Ça, c'est sûr. C'est toujours à partir d'une œuvre commune que le bien commun se constitue, je crois. Et cette œuvre commune implique une coopération. Autrement, ce ne serait pas une œuvre commune. Une coopération entre les membres qui veulent vivre une même vie commune. Vous voyez ? Donc, il y a là quelque chose qui permet un support, une infrastructure d'une vie commune et d'une vie politique. Il semble donc que le propre d'une philosophie politique, c'est d'essayer de comprendre ce qui constitue une communauté d'hommes capables de vivre ensemble. Cette communauté est fondamentalement la famille. Point de vue naturel. Parce que la coopération, là, est fondamentale. Et elle est naturelle. Et la seconde coopération, c'est de réaliser une œuvre commune, donc un fait géré commun. Et troisième élément, c'est qu'il y a une certaine concorde, qu'on ait confiance les uns dans les autres. Autrement, le travail commun en subira les conséquences et on sera tout le temps à se regarder, à s'opposer. Il n'y aura plus possibilité d'un travail commun. Vous voyez donc qu'il y a des éléments fondamentaux pour un bien commun. Il y a des éléments moraux, des éléments d'efficacité. Et d'efficacité qui peuvent aller jusqu'à l'efficacité commune dans la coopération du foyer pour l'apparition, la naissance un nouveau membre de la communauté qui au début est totalement dépendant de ses parents mais qui petit à petit peut prendre une certaine indépendance. Y a-t-il, seconde question, y a-t-il en philosophie politique un principe propre? Très grave question, mais indispensable pour ce qu'on va voir ensuite. Quelle est la finalité de la vie commune? Quelle est la finalité d'une vie commune politique? Je crois que la finalité d'une vie commune, c'est toujours le bene vivere, le zen, le bien vivre. Personne individuelle ne peut pas atteindre pleinement. Que la famille, comme telle, ne peut pas atteindre parfaitement. La finalité de la personne individuelle, c'est la contemplation, c'est l'amitié. Et dans la mesure où cette personne implique l'aspect religieux, c'est l'adoration et la contemplation. Le bien commun s'inscrit entre les deux. Le bien commun, ce qui est donc une coopération dans le travail, dans l'efficacité, en vue d'une œuvre commune. Famille a comme bien commun la survie de l'espèce, de l'individu. La survie de l'individu, de l'espèce. Voilà le propre de la famille. C'est fondamental. C'est ce qui doit durer le plus. Alors, que peut être un principe nouveau au point de vue éthique de cette coopération qui produit un bien commun? Et qu'est-ce que ça peut modifier au point de vue éthique? La dimension politique. Je crois qu'on peut tout de suite préciser, hein, ça demande de la réflexion, mais comme ici on doit aller un peu vite, on peut tout de suite préciser que c'est vrai, le bien commun est au niveau de la coopération dans le travail et l'efficacité. Le bien commun, au sens strict, ne donne pas le bonheur. Parce que le bien commun est au niveau d'une réalisation à l'égard des réalités, des choses, d'une matière, cause matérielle, toujours transformée par le travail, et réalisant une œuvre commune. Le bien commun est au niveau du travail et donne au travail une nouvelle finalité. Je ne travaille pas pour moi seul, je travaille pour un bien commun, le bien de la communauté. Et donc si c'est au niveau du travail, ce n'est pas au niveau strictement de la fin, c'est au niveau du conditionnement. Il y a une coopération dans le travail, et donc c'est au niveau du conditionnement. Ce bien est à la fois une réalisation et une certaine fin. Une fin commune, immanente, puisque c'est une réalisation. C'est un bien qui est fait par tous, qui est fait par plusieurs. Donc il semble bien que, au sens strict, la finalité est toujours personnelle et qu'il n'y a pas de fin commune, collective. Il n'y a qu'une réalisation. Le bien commun est une réalisation. Ça ne tombe pas du ciel. Si c'est une réalisation, c'est quelque chose que l'homme fait avec un autre. La vie commune conditionne, mais ne finalise pas. Vous voyez, toutes les oppositions et les critiques qu'on fait vis-à-vis de la vie commune proviennent la plupart du temps, c'est qu'on attend de la vie commune plus qu'elle ne peut donner. C'est très curieux. Ce sont les êtres qui ne sont, ce sont les personnes qui ne sont pas finalisées qui critiquent le plus la vie commune. Celles qui sont parfaitement finalisées par le point de vue de l'amitié ou de la contemplation, très bien, sont donnés à la vie commune, mais n'attendent pas de la vie commune un bonheur. La vie commune permet un exercice de générosité, de don dans le travail, mais ne finalise pas. La vie commune ne peut pas finaliser, philosophiquement parlant. Je ne parle pas d'un point de vue surnaturel. C'est un très gros problème, ça. Je ne le traite pas ici, tu vois, pour le moment. Ce serait le point de vue de l'éthique chrétienne. Ça, je crois qu'on peut tous comprendre ça. S'il y a des difficultés là-dessus, notez-les pour le cours prochain, pour qu'on puisse vraiment bien voir. Il faut bien noter ça, que le bien commun ne finalise pas. Il n'y a pas de finalité collective. Ça donne un très gros coup, ça, à toutes les philosophies qui se veulent collectives. Parce qu'il n'y a pas de finalité. La finalité est personnelle. C'est tellement beau, ça, que toute finalité est personnelle. Alors la seule finalité collective, c'est la famille. Et qui n'est justement pas collective. La famille résiste à la socialisation. Et une socialisation plénière supprime la famille. Elle est en lutte contre la famille. Même si elle fait des baratins pour la famille, en réalité elle les supprime. Si on est attentif, si on essaie de comprendre, très très curieux, ça. Et ça, c'est très important. Très important de comprendre ça. La famille a sa finalité propre, qui n'est pas la finalité politique. La famille a son bonheur propre, qui n'est pas politique. Et quand la politique, la communauté politique veut être l'absolu, elle supprime la famille. Et elle veut supprimer la famille. Parce que la famille est toujours un peu rivale du point de vue politique. Parce que la famille a cette chose que l'esprit politique n'a pas, c'est qu'il y a l'amour d'amitié. On a choisi son épouse, tandis qu'on nous impose un chef d'État. C'est très vrai. Puisque c'est nécessairement, lorsqu'il s'agit de la démocratie, le suffrage universel. Alors, si vous l'avez choisi, très bien, mais vous ne l'avez pas choisi pour être votre ami, pour déjeuner tous les jours avec lui. Alors, si vous ne déjeunez pas tous les jours avec lui, il n'y a pas d'amitié. Donc, ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un qu'on considère comme bon, capable de nous gouverner. Ce n'est pas l'ami. Donc c'est au niveau du bien commun. Et ce n'est pas une finalité. Or, l'amour d'amitié se réalise fondamentalement dans la famille et par la famille, au-delà de la famille. Les amis qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas la politique. Quand vous réduisez l'amitié à l'aspect politique, vous savez ce que ça fait. C'est une amitié qui ne dure pas. Parce que dès qu'il y a des options politiques différentes, on se tourne le dos. Parce que justement, la politique est au niveau du bien commun et de l'efficacité du bien commun. Donc on est au niveau du conditionnement. Bon, je crois que ça c'est très important à comprendre. Alors, avec l'aspect religieux, il y a une nouvelle finalité. La finalité de l'adoration et de la contemplation. L'adoration pour tous et la contemplation pour quelques-uns. Mais tous doivent aspirer à la contemplation. Tout être religieux, vraiment religieux, doit aspirer à la contemplation. Il ne peut pas se contenter de l'adoration. L'aspect religieux est essentiellement personnel. Pourquoi ? Parce qu'il est une relation personnelle avec le Créateur, avec l'être premier. Donc, il est premièrement et essentiellement personnel. Et il donne à la personne humaine vraiment une nouvelle dimension. L'homme religieux est plus que l'homme tout court, ou l'homme laïque. Il y a une dimension qui s'enracine dans l'aspect naturel de l'homme. L'homme est naturellement un homme religieux. Et c'est pour ça que l'homme n'a pas le droit d'accepter politique qui ne respecte pas l'aspect religieux. C'est ce que le Concile a rappelé par le point de vue de la liberté religieuse. La liberté religieuse se situe à ce niveau. Ça n'a pas le droit, ça ne veut pas dire que vous avez le droit d'être n'importe quoi. C'est pas ça du tout que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que l'État comme tel, n'a pas le droit de régenter l'aspect religieux. Il n'a pas le droit de ne pas respecter dans l'homme la dimension religieuse. C'est ça la liberté religieuse. Allons plus loin. Ça, je crois qu'on peut tous reconnaître ça. Il y a une finalité nouvelle, l'adoration et la contemplation. Allons plus loin. L'attitude religieuse, comme attitude religieuse, de fait, ne réclame-t-elle pas un culte visible ? une réunion visible de tous ceux qui ont la même religion. L'aspect liturgique n'est-il pas essentiel à l'homme religieux? Ça, c'est très important à saisir. L'homme religieux est religieux dans son âme, premièrement. L'adoration et la dévotion sont premièrement une attitude purement intérieure. Et l'attitude religieuse demande que le corps soit associé à cette attitude religieuse, parce que nous sommes une créature de Dieu quant à notre âme et quant à notre corps. Donc, si le corps doit exprimer l'adoration, la dévotion, par le corps, il y a quelque chose de visible. L'activité religieuse de l'homme n'est pas seulement purement intérieure, elle implique une extériorité. Je ne peux pas vraiment adorer si mon corps n'accompagne pas mon âme. Si le corps doit accompagner l'âme, il y a quelque chose de visible. Et si le corps doit adorer et louer et rendre grâce à Dieu, immédiatement par le corps, la dimension communautaire est engagée. Si la dimension communautaire est engagée dans l'attitude religieuse, il faut bien qu'il puisse y avoir des réunions. Il doit y avoir une œuvre commune qui peut se faire au niveau religieux. Et cette œuvre commune qui peut se faire au niveau religieux, c'est la liturgie. Il y a donc un bien commun religieux. Qui prend des modalités très différentes selon les traditions religieuses. Le bien commun bouddhiste n'est pas le même que le bien commun chrétien. Bien qu'il y ait des choses communes. Des choses communes, c'est que les bouddhistes réclament d'avoir des temples, les chrétiens réclament d'avoir des églises, les juifs réclament des synagogues, et les autres des mosquées. Vous retrouvez, je crois, dans presque tout, les religions, cette exigence d'un lieu consacré à Dieu, consacré au Créateur, consacré à celui qu'on adore. Dans toutes les religions, vous trouvez ça. Donc, il y a un bien commun religieux. S'il y a un bien commun religieux, ce bien commun religieux va s'ajouter au bien commun politique. Forcément, le bien commun religieux n'est pas premièrement politique. Il n'est pas non plus premièrement familial. Parce que, à l'intérieur de la famille, je peux avoir mon culte familial. Je peux avoir ma liturgie familiale. L'État n'a rien de bon à le faire. Sauf si l'État ne respecte pas la propriété de la maison. Si l'État respecte la propriété de la maison, j'ai le droit d'avoir, à l'intérieur de ma chambre, un tout petit lieu de recueillement, de prière, mon tapis à prière, mon icône, ma statue, j'ai le droit d'avoir ça. Ça reste familial. Donc, au-delà du du point de vue politique. Mais il n'y a pas seulement une liturgie familiale, il y a une liturgie commune. Une famille ayant telle religion s'unit à telle autre famille qui a la même religion. Et on se retrouve alors dans un lieu commun, qui est un temple, qui est une église, qui est une mosquée. On se retrouve dans un lieu commun. S'il y a le commun, il y a quelque chose qui est au-delà de la famille et qui est au niveau du bien commun. C'est le bene vivere religieux. Et donc ce bien commun, très bien entrer en conflit avec le bien commun politique. Rien d'impossible à ça. Là, vous voyez, là va jouer une question de rivalité, d'harmonie, d'ordre, de préséance, de valeur. À l'intérieur de ce bien commun politique, il y a des valeurs que la personne humaine, au-delà de la famille, veut sauvegarder. Mais qui est dans le prolongement de la famille. Toujours. Qui n'est pas dans le prolongement politique. La politique n'apportant pas de finalité propre, n'apporte pas quelque chose qui soit proprement religieux. Elle respecte la famille, elle en dépend, mais au point de vue religieux, elle n'en dépend pas. Le bien commun politique s'est constitué, peut se constituer indépendamment du point de vue religieux. Donc, les rivalités entre le bien commun politique et le bien commun religieux pourront être beaucoup plus immédiates qu'entre le bien commun familial et le bien commun politique. Et vous comprenez pourquoi? Parce que l'homme, avant d'être citoyen, est un homme qui vit dans une famille. Parce qu'il vit dans une famille, peut-être un homme religieux. Et s'il vit même en dehors de la famille, comme célibataire, peut-être un homme religieux. Il peut se faire non seulement qu'il se bien commun pour un temple, un lieu de rencontre, un lieu de prière. C'est pratiquement le temps. Et puis ça aller plus loin, il peut y avoir des communautés religieuses qui s'instituent comme communautés religieuses au-delà de la famille. Des communautés monastiques, des communautés religieuses qui ont leur unité et qui peuvent très bien avoir un régime de vie tout à fait autonome. On cultive des petits pois, des fèves, des navets, et on vit sur le bien commun, religieux, cela est religieux. Alors, il y a comme une espèce de communauté qui peut avoir son indépendance à l'intérieur du bien commun de l'État. Puis vous voyez que ces moines qui travaillent bénévolement et qui travaillent très bien avec beaucoup d'amour, font du yaourt bien meilleur que celui qui est vendu. Et donc ils ouvrent une petite fenêtre en disant « je fais du commerce ». Il devient en rivalité. Je vends du miel. J'ai de la vigne. Je me mets à vendre du vin. Alors vous voyez, à ce moment-là, nécessairement, il y a des conflits entre le bien commun de l'État, surtout s'il est un peu socialiste, et le bien commun des communautés. Oui, je dis s'il est socialiste parce qu'il veut tout régenter. Forcément, ça, le point de vue socialiste veut toujours tout régenter, ça. C'est le poids du socialisme. Ça ne peut pas être autrement. C'est l'idéologie socialiste. L'idéologie socialiste veut l'école unique. L'idéologie socialiste veut que l'État régente tout le point de vue du commerce. Ça, c'est le poids de l'idéologie. Il peut faire des concessions momentanées. Mais, de fait, l'idéologie demeure. Ça ne peut pas être autrement. C'est pour ça qu'ordinairement, les gens ne savent pas ce qu'ils font quand ils votent. Ils ne voient pas ce que c'est. Eux qui veulent la liberté. Il peut y avoir des écoles coraniques, des écoles religieuses, chrétiennes et religieuses, indépendamment de l'État. Et au bout d'un certain temps, il y aura une réclamation en disant « J'éduque de bons citoyens. L'État qui a le souci de l'éducation doit m'aider à les éduquer bien, parce que je les éduque mieux que l'autre. » Donc il y a des rivalités, des réclamations. L'État doit payer. Et par l'argent, l'État resserre son contrôle. Tout ce que nous vivons, hein. La question du problème des écoles libres. Vous voyez, comment l'aspect religieux amène nécessairement, je dis nécessairement, une liberté au niveau de la communauté, monastique, économique, éducative. Ça ne peut pas être autrement. D'où le conflit, d'où les luttes. Si vous avez un État qui ne respecte pas la dimension religieuse, qui se dit laïque, et qui implique une idéologie socialiste ou communiste. Je crois qu'il faut regarder ça très près, indépendamment de toute espèce de parti politique, comment on vote. Il faut regarder ça philosophiquement parlant. Je vois que le bien commun à deux sources, une source politique et une source religieuse. C'est ça qu'on ne voit pas assez. On ne voit pas assez que l'aspect religieux impliquant le corps et l'âme implique nécessairement un aspect communautaire. Et ça implique un aspect communautaire, on commence par un bien commun religieux. C'est vrai. La récitation de l'office, bien commun religieux. Ce bien commun religieux va progressivement s'étendre. Une vie commune. La vie commune fait qu'il y a un peu plus que l'aspect liturgique. Il y a la table commune. La table commune, c'est un bien commun. Pour qu'il y ait table commune, il faut qu'il y ait un cuisinier. Il faut qu'il y en ait même plusieurs. Pour qu'il y ait table commune, et puis qu'on vit entièrement là, mais il faut une lingerie. S'il y a une cuisinier, un cuisinier, il faut les biens. Vous avez donc, petit à petit, voyez, ça devient un état dans l'état. Alors, est-ce légitime, n'est-ce pas légitime? Vous voyez, souligner les deux sources du bien commun. Parce qu'on ne les a pas assez soulignés, ça. Il me semble. Les deux sources. Naturelles. Je dis bien naturelles. L'homme est naturellement un être religieux. Et donc, naturellement, l'homme voudra revendiquer les droits naturels religieux d'une communauté, d'une liturgie, communautés religieuses. Et cette communauté religieuse tend vers l'autarcie. Et donc devenir une communauté religieuse parfaite. Et ce qui fait que les autres sont terriblement jaloux, c'est que cette communauté religieuse est plus efficace que le reste. Les produits sont meilleurs. S'il n'y avait pas de temps en temps des révolutions, bien, ça prendrait tout. Parce que c'est un fait. Quand même, normalement, les religieux, même si on dit qu'on critique beaucoup, ça quand même travaille mieux. C'est plus efficace. Il y a plus de bénévolat. Ça coûte moins cher. Ils ont fait profession de pauvreté, donc ils ne réclament pas. Il n'y a pas de syndicat. C'est merveilleux, c'est étonnant. Et ça marche. Pourquoi ? Parce que il y a une poussée d'adoration, de contemplation. Une mystique qui pousse. Vous voyez, le conflit, j'allais dire, dans les choses humaines, fatal. Ce qui montre bien, pas de politique religieuse, non, mais des communautés religieuses qui ont une politique religieuse à l'intérieur de leur communauté, mais qui n'est pas une politique religieuse. Un esprit religieux qui doit se gouverner. Alors, à ce niveau-là, on rencontre des conflits qui ont existé à travers tous les temps. En Grèce, les conflits entre les communautés religieuses et la politique. Et les deux sont légitimes. Pas les conflits, mais les deux sont légitimes. Et les deux doivent exister. Alors, vous voyez, quand l'aspect religieux va englober la famille, on voit aujourd'hui, on voudrait que l'aspect religieux va englober les familles. Alors, le conflit va arriver avec une rapidité forte.